Vous avez remarqué? Les Jeux Olympiques et Paralympiques approchent à grands pas. Ça va être un moment génial, de fête, de célébration évidemment. Et je ne sais pas dans vos cercles, mais de mon côté, une bonne partie de mes amis parisiens préparent leurs vacances d'été et se posent la question de mettre leur appartement sur Airbnb à cette occasion. Ça pourrait financer au moins en partie leurs vacances, alors ça tombe sous le sens qu'ils y pensent. De mon côté, c'est certain, je serai à Lisbonne, donc mon appartement parisien, dont je suis propriétaire, sera sur Airbnb pour cet été, pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques. D'ailleurs, ça me permettra de financer, en partie, mes vacances. Et vous? Imaginez ce que vous pourriez faire avec ce supplément de revenus. En réalité, votre logement pourrait rapporter plus que vous ne le pensez. Découvrez combien sur airbnb.fr/hôte. C'est airbnb.fr/hôte, H-O-T-E. Allez, place à l'épisode maintenant.
Bonjour, cet épisode est un peu particulier parce qu'il est en deux langues, vous êtes sur la version française. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cet épisode 51 sur le bonheur avec Mo Godat, qui a été l'un des épisodes les plus écoutés de mon podcast, qui est juste génial si vous ne l'avez pas encore écouté. Et j'ai voulu réinviter Mo pour parler cette fois-ci d'un sujet qui me tient aussi beaucoup à cœur, qui est cette nouvelle spiritualité de société. C'est pas forcément très ésotérique, on part pas hyper loin, si le mot spiritualité vous fait peur. Je pense que c'est une clé que beaucoup de personnes cherchent quand elles cherchent du sens dans leur vie, quand elles cherchent quand elles font du développement personnel. Donc je vous laisse avec cette conversation qui est passionnante. Allez Vlan, c'est parti. Salut Mo. Ça fait un moment qu'on a parlé ensemble. On a enregistré ensemble un épisode sur le bonheur. Et en fait, c'est l'épisode le plus écouté sur mon podcast. Ouais, sur 85 épisodes, c'est l'épisode le plus écouté. Donc on n'est pas ensemble pour le moment, tu es en République dominicaine. Et le sujet que j'aimerais aborder avec toi, c'est la spiritualité. Parce que ça fait un moment que je réfléchis et je pense que le monde a besoin d'une nouvelle spiritualité. Pas forcément liée à la religion, mais basée sur la manière dont on envisage la vie, le succès et tous les sujets dont on parle ensemble. Et j'ai réfléchi à qui serait la meilleure personne pour parler de ça, et je me suis dit, mais Mo serait la personne parfaite pour parler de qu'est-ce que devrait être la spiritualité du monde, ou en tout cas, la partie occidentale du monde.
Oh wow, ok, I'm definitely not the best person for that, but let's give it a try.
Let's give it a try then.
Yeah.
Ça dépend vraiment comment tu définis la spiritualité. Il y a tellement de manières d'envisager la manière dont tu vois le monde. Quand on écrit un concept avec un mot, en fait, on enlève totalement son essence. Par exemple, si j'utilise le mot « tour », il y a beaucoup de tours différentes dans le monde. On ne peut pas comparer la tour Eiffel avec, par exemple, une tour résidentielle que quelqu'un a construit à Cabaret, là où j'habite, et qui fait 4 étages. Et en ce faisant, on perd complètement l'essence de ce que veut dire le mot. Je pense que la spiritualité est sans doute le mot qui est le plus mal utilisé dans le monde aujourd'hui. C'est vraiment mal compris. C'est complètement mélangé avec le mot religion. Pendant beaucoup d'années, ça a été complètement restreint à la religion, et pour être spirituel, il fallait revenir à nous. Et peut-être que maintenant, c'est contraint à la Californie, les fleurs blanches, les fleurs. Ben, si tu veux être spirituel, viens, on va te montrer ce que c'est. Ce que la spiritualité est vraiment. Et tu sais, j'ai été ingénieur, et j'ai toujours tendance à regarder la définition très précise, qui permet de mieux comprendre le concept. Et donc, dans ma définition personnelle de la spiritualité, ça vient de l'esprit. Et l'esprit, c'est le mot religieux pour définir l'autre part de toi-même. Et je pense que c'est précisément là où la structure de la conversation prend forme. Je veux dire, est-ce que c'est une extension de nous, de notre physique? C'est l'intégralité de ce que nous sommes, ou est-ce qu'il y a plus que ça pour l'humain, que juste notre forme physique? Et si ça existe, que tu veux l'appeler l'esprit ou autre chose, ça ne change pas grand-chose finalement. La spiritualité, ce serait comment tu crées ce lien à cette autre part de toi-même, pour trouver cette complétude au fond de toi qui dépasse ton physique et qui va dans ton esprit. Et de la même manière, si c'est vrai pour nous, alors tu réalises que c'est aussi vrai pour tout ce qui est physique, finalement, que juste le physique. Il y a plus dans l'univers que juste la partie physique que l'on voit. Il pourrait y avoir quelque chose de plus grand que nous tous, ce qui est dans les religions, ce qu'on appelle le divin, le Dieu, Allah, peu importe la manière dont on l'appelle. Et la manière de l'envisager peut varier de manière très importante si tu analyses les différentes religions. Et encore une fois, s'il y a quelque chose de plus grand que nous tous, alors comment on fait le lien avec cette chose? Et pour moi, dans ma définition, c'est ce qu'est la spiritualité.
C'est intéressant. Donc, de mon point de vue, j'ai l'impression que nous, en tant qu'humains, on est un peu déconnectés avec cette autre part de nous, mais aussi cette autre part du monde. On a tendance à considérer la nature, et par la nature, j'entends la végétation, mais aussi les animaux, mais à part les humains. Et d'une certaine manière, les humains ont considéré tout le reste comme un moyen pour faire autre chose. Donc on consomme la nature, on consomme les animaux, on le considère comme un matériel de base, finalement, pas comme une autre part de nous-mêmes, si tu comprends ce que je veux dire. Et donc, dans cette nouvelle spiritualité à laquelle je pense, je me dis que c'est aussi comment on considère le succès. On a parlé de ça ensemble, d'ailleurs. Mais il y a un an, je me disais, et peut-être aussi grâce aux gens que j'ai rencontrés et que j'ai reçus sur ce podcast, c'est beaucoup à propos de cash, d'argent. Personne que j'ai reçue qui me disait, j'ai réduit mon cash flow, mais du coup, j'ai augmenté mon forest flow, mon surf flow. Et tu comprends ce que je veux dire? C'est cette balance qu'on doit considérer aussi.
Ce que tu définis comme le meilleur, malheureusement, dans le monde dans lequel on vit, qui est très capitaliste, très consumériste, à cause du marketing et de la publicité, et je dis ça avec beaucoup de respect pour ton métier. Mais l'idée, c'est qu'on ne dit aux gens de manière constante qu'il n'y a qu'une seule manière de définir le succès dans la vie. Il y a une seule manière de définir la beauté, une seule manière de définir un succès. Et malheureusement, tout cela est complètement faux. Si tu voyages autour du monde, tu te rends compte qu'il y a plein de formes, de définitions qui définissent ce qu'est la beauté dans les yeux de quelqu'un, des goûts particuliers. Et du coup, tu commences à réaliser que la manière dont on a défini de manière commune ce qu'est le succès est probablement complètement pipé. Et en fait, c'est complètement pipé. Et en fait, j'ai été la victime de ça. J'ai passé les premières années de ma carrière, peut-être les 25 premières années de ma vie, qui sont en réalité souvent les années les plus productives en termes d'énergie, et j'espère qu'ils seront compensés par la sagesse dans la vieillesse. Mais tellement de mon énergie a été mise pour créer de la richesse, avoir des titres et atteindre un patrimoine qui soit uniquement mesuré en dollars. La réalité, c'est que ma mission, c'est de rendre 1 milliard de personnes heureuses. Et souvent, je dis au public, imaginez qu'à la fin de ma vie, j'ai réussi à rendre à diffuser le message à 1 milliard de personnes plus heureuses, mais que dans le même temps, j'ai perdu tout mon patrimoine que j'ai pu gagner grâce à Google, mais que malgré tout, il me reste suffisamment d'argent pour acheter un t-shirt de Pink Floyd de 1990 avant que je meure, parce que tu considéreras ça comme du succès. Est-ce que tu considérerais ça comme du succès? 1 milliard de personnes heureuses plutôt que 1 milliard d'euros. Est-ce que tu considères ça comme du succès? Maintenant, revenons à la spiritualité. Et l'idée, c'est que la plupart des enseignements spirituels et religieux ont toujours ciblé deux choses. J'ai étudié toutes les spiritualités, toutes les religions que tu peux trouver à travers le monde. Elles reviennent toujours à deux choses. La première, c'est apaiser tes propres souffrances, et l'autre, c'est apaiser les souffrances des autres. Donc en fait, toutes les religions, si tu enlèves tout ce que l'humain a pu rajouter par les saints, les professeurs, etc., qui n'était pas vraiment l'essence même, finalement tu te retrouves avec est-ce qu'on peut t'aider à traverser cette vie de la meilleure manière, que tu souffres le moins possible, et est-ce qu'on peut t'apprendre la compassion pour que de cette manière tu puisses aider les autres à réussir et trouver le bonheur pour qu'il ne souffre pas. Et si tu prends ça comme le cœur de la spiritualité, alors le succès veut dire quelque chose de très très différent.
Totalement. Et je pense que si on revient à ton exemple du t-shirt de Pink Floyd, je pense que les gens, quand ils essayent de récupérer un maximum de dollars, ils pensent aussi à leurs enfants et ils se disent je dois leur léguer quelque chose. Oui, c'est principalement ce que les gens pensent quand ils gagnent de l'argent.
Est-ce que c'est pas complètement stupide ? Je sais que c'est, on dirait que c'est horrible quand je dis ça, mais tu sais, j'ai réussi dans la vie, en particulier dans le monde matériel. J'avais tout planifié, tout ce que je pouvais acheter pour Ali, ses études, je lui ai même acheté un appartement pour qu'il ait des revenus passifs une fois qu'il serait diplômé. J'ai même commencé des business pour lui, pour que de cette manière, une fois qu'il soit diplômé, il puisse les diriger. Alors qu'il changeait de direction, il a changé 3 fois de direction à l'université. À chaque fois, je recommençais un nouveau business. C'est de cette manière, j'étais autant impliqué pour donner une vie agréable, confortable à mon fils, une fois qu'il serait diplômé. Et il est parti, pour une raison complètement inattendue, pour une erreur humaine, sur une opération médicale assez simple, et il est décédé. À quel moment tu trouves cette illusion que tu es plus protégé quand tu as plus d'argent ? J'ai jamais compris ça. Je vais te dire, de manière statistique, le montant qu'on me volait était toujours de plus en plus en termes de pourcentage au fur et à mesure que mon revenu augmentait. Donc typiquement, quand j'étais étudiant, que j'avais pas beaucoup d'argent, il y a peut-être un pickpocket qui a pris un petit peu de mon argent dans une poche, dans le métro. Et une fois que j'ai eu plus d'argent, que j'avais des voitures, les gens volaient mes voitures. À quel moment tu as l'illusion que si tu as tout l'argent du monde, tu vas pouvoir guérir d'un cancer si tu es diagnostiqué ? À quel moment tu trouves l'illusion que si tu as tout l'argent du monde, tu ne vas pas faire à un moment donné un mauvais investissement et tout perdre ? Ce que j'essaie de dire, et je dis ça avec beaucoup d'optimisme, la plupart des enseignements spirituels te diront que le bonheur et la paix se trouvent dans le fait de trouver, de voir la vérité. La réalité de notre vie, c'est comme un jeu vidéo, c'est plein de challenges, c'est vraiment plein de challenges. Évidemment, je dirais jamais que la vie est un jeu vidéo, mais c'est comme un jeu vidéo. Il y aura toujours un challenge parce que c'est la seule manière pour que le jeu soit intéressant à jouer. Et ces challenges ne se résolvent pas en collectant un maximum de monnaie sur le chemin. Elles se résolvent en collectant les connaissances pour résoudre les problématiques, même en l'absence de monnaie. Et c'est ça le truc. Le truc, c'est de se poser la question de qu'est-ce que tu devrais collecter au fur et à mesure que tu construis ta vie. Est-ce que tu devrais collecter de l'argent, qui de toute façon ne garantit pas que tu ne pourras pas le perdre ou qu'il ne va pas se déprécier à cause du taux de change. Tu sais, la réduction du pouvoir d'achat ou la croissance des profits, de tous ces lobbies, des produits de consommation. Ou, à l'inverse, est-ce que tu devrais collecter les connaissances, ces connaissances qui te permettent de naviguer dans la vie, quelles que soient les expériences que la vie t'amène, les connaissances qui te permettent de trouver la paix trouver cet ancrage intérieur, alors que le monde bouge tout autour de toi comme un jeu vidéo. Un vrai joueur de vidéo, si tu trembles pour une seconde, alors qu'il y a des challenges qui arrivent, tu perds cette petite seconde qui est indispensable pour te sortir de la situation. Est-ce que ce n'est pas ce qu'on devrait chercher à collectionner finalement? Est-ce qu'on ne devrait pas essayer d'avoir un patrimoine de spiritualité, de paix, de connaissances pour naviguer dans le monde et faire face à toutes les merdes que le monde peut nous envoyer?
Et justement, puisque tu parles de la relation entre les parents et les enfants, j'ai aussi l'impression que l'enfant sera plus riche avec de la sagesse qu'avec de l'argent. En réalité, j'ai l'impression que l'argent peut même créer des enfants plutôt tristes, et j'en connais quelques-uns.
Oui, oui, tout à fait. En fait, un enfant est déjà sage avant qu'on pourrisse sa sagesse. Les enfants sont purs. Et ils sont heureux, ils sont innocents, ils sont honnêtes. Ils jouent, et alors qu'ils jouent, ils sont incroyablement créatifs. Ils sont incroyablement productifs, ils ont une énergie infinie, et à ce moment-là, stop de faire tout ça, c'est une perte de temps, il est temps de devenir sérieux. Et là tu dis, mais qu'est-ce que ça veut dire d'être sérieux, j'ai 6 ans. Et tu te souviens, on est tous passés par là en fait. On te met dans une école et on te dit, arrête de faire tout ce que tu sais de manière instinctive, comme un humain finalement. Donc maintenant, faisons les choses de manière différente, tu vas t'asseoir dans une classe, tu vas écouter pendant 8 heures, ne jamais faire d'objection par rapport à ce que va dire le professeur. C'est complètement débile. Et si tu n'aimes pas les sciences humaines, eh bien, c'est pas très grave. Passe ta vie à étudier les sciences humaines quand même. Et après, on dit à ses enfants d'exceller dans la vie. Et bien sûr, en vérité, la plupart d'entre nous, que tu le crois ou pas, on a objecté pendant un jour ou peut-être plus, parfois pendant toute notre adolescence, en expliquant « Ah mais non, mec, c'est pas du tout comme ça que je suis supposé vivre. » Et puis finalement, on s'est conformé parce que le système est tellement puissant. Les enfants sont déjà sages. En fait, on les pourrit avec des idées préconçues sur le monde moderne, et de cette manière, on leur enlève la capacité à réaliser leur propre monde, leur propre capacité, leur propre talent, et peut-être même leur propre spiritualité. En fait, tu sais, ce qui manque le plus dans le monde, c'est d'être religieux, c'est de suivre Jésus, Mohamed ou Bouddha. Non, non. En fait, on suit tous une religion, même les athéistes, même les capitalistes suivent une religion. Simplement, on l'appelle de manière différente. Mais la réalité, c'est que tout le monde qui s'aligne avec des enseignements, c'est juste un fanatique, en fait. C'est par exemple quand tu suis Manchester United, alors quand t'es fan de football. En fait, ce que tu dis, en fait, non, en fait, je suis un énorme fan. Par exemple, du christianisme, du bouddhisme, ou alors je suis un très grand fan de football, ou un très grand fan de faire de l'argent, ou j'ai envie que mon opinion soit entendue, de défendre la liberté que l'Ouest s'est propagée dans le monde entier. Mais la réalité, c'est que même tout ça n'est complètement vrai ou complètement faux. Mais la question, c'est, est-ce qu'il y a un petit bout de ça qui est un peu de toi? Qui es-tu vraiment?
Totalement. Et justement, je me disais, en t'écoutant, que, et je sais que parce que tu as parlé à cette conférence à Paris aujourd'hui qui s'appelle Sustainable Brands, et j'ai reçu le fondateur de cette conférence sur ce podcast, et j'ai l'impression que cet état d'esprit, cette spiritualité, quelque part, est plus durable que celle que l'on définit par les dollars ou les possessions, d'avoir plus et plus et plus, et qui finalement ne t'amène pas le bonheur, ou le succès, si tu préfères l'appeler comme ça, mais... Oui, oui, ils peuvent l'appeler succès s'ils le souhaitent, mais finalement, ça ne marche pas comme ça, en fait. Alors bien sûr, il faut pouvoir manger quand on a faim, mais après ça, ça ne marche pas.
En réalité, même quand tu penses aux personnes qui ne peuvent pas manger à leur faim, c'est aussi une question de spiritualité, que tu le crois ou pas. La spiritualité, pas la religion, hein, souviens-toi. Dans la spiritualité, quand tu sais, vraiment au fond de toi qu'il y a plus que toi que juste cette forme physique, alors tu réalises que tu es connecté à tout le monde. Et justement, j'étais en train d'écrire à propos de cela aujourd'hui, parce qu'en fait, je suis en train d'écrire mon prochain bouquin, et j'écrivais qu'en grandissant en Égypte, même si on n'avait pas la sécurité sociale, les assurances de santé, ou ce que les Occidentaux exigent de leur gouvernement, en réalité, on avait cette paix intérieure constante, parce qu'on savait que si quelque chose se passait mal pour nous, ben, notre cousin, notre ami, notre famille prendrait soin de nous, en fait. On était beaucoup plus qu'une seule personne, mais l'individualisme de l'Occident nous a volé ça. Maintenant, une part de cette approche spirituelle, c'est de réaliser que je ne suis pas un individu. Il y a tellement plus que moi, que cette forme physique qui est limitée par ma peau. Et ce qu'il y a de plus pour moi, là, c'est un lien qui me connecte à tous les autres. C'est une communauté, pas juste un individu. Et une fois que tu internalises ça, très profondément, alors tu reconnais qu'il n'y a pas grand-chose avoir peur, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas trop de soucis à se faire, en fait. Parce que, au minimum, tu auras des personnes qui sont toujours là pour toi. Donc, voilà, c'est une partie de l'histoire, mais l'autre partie de l'histoire, si tu me demandes, si tu retournes à ce concept d'être spirituel, je vais partager ma propre expérience. Et je sais que certaines personnes vont trouver ça étrange. Voilà. Je suis né en étant musulman. Et l'islam est une religion très conformative. Fais les choses comme on te les dit, et parce qu'on a fait des recherches, on connaît les dieux, et on sait exactement comment tu dois te comporter du moment où tu te réveilles jusqu'au moment où tu te couches, et de cette manière, tu vas te retrouver au paradis. J'ai rien contre ça, évidemment, mais je pense pas que ce soit le propos. L'idée, c'est de chercher et de trouver ta propre réalité. Donc, à l'âge de 16 ans, j'ai commencé à me dire, peut-être que si je dois continuer le reste de ma vie à me conformer, je devrais plutôt essayer de trouver la formule. Donc, globalement, ce que j'ai fait, c'est les mathématiques de Dieu, ou les mathématiques du design, si tu préfères, ce que tu peux retrouver dans mon bouquin Self-Therapy, mais bon, je ne vais pas t'ennuyer avec ça. Je suis arrivé à un point où je me suis dit, d'un point de vue mathématique, je me suis dit, il y a sans doute une probabilité beaucoup plus grande qu'il y ait un design derrière l'univers qu'une probabilité que tout arrive de manière complètement aléatoire. Je ne dis pas que l'évolution n'existe pas, mais ce que je veux dire, c'est que l'évolution, c'est une partie de ce design. Maintenant, quand je suis arrivé à ce point de réflexion, toute ma vie a complètement bougé. J'avais 16 ans à l'époque. Et je me suis dit, regarde, si je questionne ce qu'ils me disent, je peux arriver à une croyance plus profonde dans ce que je crois moi-même. Et de là, j'ai commencé à étudier toutes les religions sur la planète. J'ai lu tellement d'entre elles, et elles sont toutes tellement belles, et en même temps, elles sont toutes corrompues d'une manière ou d'une autre. Il y a un noyau magnifique au sein de toutes ces religions, mais ensuite, il y a beaucoup de règles, de régulations qui ont été rajoutées par la main des hommes. Peut-être une personne un petit peu dans l'émotion va prendre ça et va te dire « Bon, vas-y, laisse tomber, j'ai pas du tout envie de suivre ces règles définies par des gens, je suis une personne libre. » Une personne un peu plus sage va se dire « Peut-être que je devrais définir ce que c'est ce cœur magnifique, parce que c'est une manière intéressante de trouver ma propre spiritualité. » Et ensuite, abandonner tout ce qui ne fait pas partie de ce noyau central. Et j'ai passé des années à travailler là-dessus, à étudier ma propre religion, l'islam, et à essayer de définir ce qu'est ce cœur et ce qui a été défini par les hommes ensuite. J'ai étudié le christianisme, le bouddhisme, l'hindouisme, le taoïsme et toutes ces religions. Et elles ont toutes un corps incroyable, mais aussi de la corruption. Prends-les toutes ensemble et tu vas trouver ta propre religion, la grégologie de vivre. Et ça va être ta propre spiritualité. J'ai même appris de la vision athéiste pour tout remettre en question. J'ai appris d'un point de vue athéiste. Peut-être le divin n'est pas engagé dans toutes les décisions qu'on prend dans notre vie. De la même manière, le designer d'un jeu ne vient pas regarder la manière dont tu joues tous les jours à son propre jeu. Tu sais, une fois que le jeu a été designé, bah, c'est toi qui joues finalement. Le truc ici, c'est qu'en tant qu'individu, est-ce que tu peux te permettre de ne pas être influencé par les religieux, mais aussi par les personnes qui ne sont pas religieuses? Est-ce que tu peux trouver la beauté dans tout? Est-ce que tu peux trouver la beauté dans tous les points de vue?
Et je me demande, peut-être que c'est une question un peu compliquée, mais est-ce que tu penses que tu dois expérimenter la richesse pour revenir à la spiritualité qui est... En fait, j'ai été là et je peux te dire que ça ne fonctionne pas. Ça me fait penser à ce bouquin. Tu sais, le bouquin de la personne qui a créé le Huffington Post, Ariana. Et elle te dit, en fait, elle a pris tout, elle a fait les enfants, elle est devenue millionnaire, etc., etc., etc. Et éventuellement, elle était hyper triste. Et je me demande, est-ce que tu penses que tu dois avoir cette expérience de richesse pour finalement te rendre compte que ça ne fonctionne pas?
Le problème, c'est que nous, en tant qu'humains, on est têtus. Et c'est plus facile d'essayer quelque chose pour soi-même et de se rendre compte que ça ne fonctionne pas. C'est tellement plus efficace si tu ne te le fais pas, si tu prends le raccourci, finalement. Si tu fais confiance dans l'expérience des autres et que tu apprends en observant. Il y a deux typologies d'apprenants, finalement. Il y a ceux qui apprennent en observant les autres faire des choses et ceux qui apprennent en faisant les choses. Et pour ceux qui préfèrent faire leurs expériences par eux-mêmes, quoi que tu leur dises, ils diront « Non, je ne te crois pas ». En fait, je dois te dire, finalement, c'est un peu un truc d'adolescent de se dire « je te crois pas, je dois le faire moi-même ». Au fur et à mesure que je suis devenu peut-être un peu plus vieux, peut-être un peu plus lent, c'est pas que j'ai perdu de l'énergie, mais j'ai dirigé mon énergie de manière plus efficace. J'ai commencé à prendre ce que les autres m'apprenaient de manière très sérieuse. Je ne le prends pas comme argent comptant, comme si j'étais aveugle. Bon, j'espère que mon prochain bouquin qui devrait sortir en 2020, enfin, j'espère, qui s'appelle Partie 2. Et en fait, ça me permet basiquement de prendre cette connaissance qui m'est donnée et de la mettre dans trois différentes cases. Plutôt que les deux cases qu'on t'apprend normalement à l'école. À l'école, on t'apprend que quelque chose est plutôt bien ou mal, faux ou vrai, ou accepté par moi ou rejeté par moi. Et la réalité, c'est que 99% de la vie, enfin, le chiffre n'est pas scientifique, évidemment, mais la majorité de la vie est ni bonne ni mauvaise, ni vraie ni fausse, mais on est dans cette zone grise, c'est ce qu'on appelle le compartiment de la partie 2. Et donc, dans mon approche de la vie, j'essaye de définir si quelque chose est dans le compartiment 1, perception limitée de la vie, donc c'est probablement correct, ou alors c'est dans le compartiment 3 et c'est probablement pas correct. Mais si c'est dans le compartiment 2, je me dis, peut-être, il y a une possibilité que ce soit correct ou que ce ne soit pas correct, et peut-être que je devrais traverser la vie en essayant de résoudre les deux. Je devrais... Tu sais, j'avais cette conversation intéressante avec un ami bouddhiste, et tu sais, dans la religion bouddhiste, ou dans la philosophie bouddhiste, il y a le karma et la réincarnation. Et je lui ai demandé, tu sais, j'ai pas une position pour ou contre la réincarnation, parce que je n'ai pas trouvé de preuves scientifiques, pour ou contre. Mais quid de si c'était pas vrai, c'est-à-dire si c'est dans le compartiment 2? Donc, pas à 100% vrai ou 100% faux, comment la philosophie changerait dans son ensemble? Et cette question est tellement intéressante quand tu traverses la vie. Dans toute ta vie, tu peux te dire que ça peut être A ou B, et pas peut-être A, peut-être B. Tu pourrais sans doute envisager la vie de manière tellement différente, avoir beaucoup plus d'options excitantes au travers de ta vie. Tout simplement parce que tu te permets de te dire que j'ai le droit de débattre que quelque chose qu'on m'a appris est vrai alors qu'on m'avait dit que c'était faux.
C'est vraiment intéressant. Ça serait le conseil que tu donnes aux gens quand ils te demandent comment ils devraient manager leur vie. Il y a beaucoup de personnes, j'ai l'impression, qui sont centrées sur le présent, et peut-être centrées sur eux-mêmes d'ailleurs. Et elles se demandent c'est quoi leur mission dans la vie ou pourquoi ils sont sur la planète. Et cette spiritualité, quelque part, peut-être c'est trop connecté à la religion, même si la religion reprend un petit peu le dessus en ce moment un peu partout. Mais dans l'Ouest, la religion est plutôt en train de disparaître et les gens sont en train de chercher une forme de vérité. Ils se demandent comment être heureux. Et du coup, ça serait quoi ton meilleur conseil, plutôt que de regarder la vie en noir ou blanc, mais vraiment dans ce gris, qu'est-ce que serait ton conseil ultime?
Simplement d'accepter qu'il y a toujours quelque chose que tu ne connais pas, quelque chose de nouveau. Et finalement, c'est ce que disait Confucius, que la vraie sagesse, c'est de reconnaître ta propre ignorance. La réalité, c'est qu'on n'en sait pas grand-chose. Je suis une personne très scientifique, j'ai étudié la science à un niveau très très élevé, et je continue à m'abreuver avec toutes les découvertes scientifiques. Et même si la manière d'envisager la science, c'est de dire on connaît la vérité, la réalité, c'est que c'est complètement faux. La science elle-même n'arrête pas de changer la réalité, de changer la vérité qu'ils ont trouvée. Tu sais, la Terre est plate, la Terre est ronde, et c'est le centre de tout. Finalement, de se dire que la Terre n'est pas ronde, mais sphérique, et que finalement, elle n'est pas le centre de tout, mais qu'elle tourne autour du Soleil, dans une sorte d'ellipse, pour finalement se rendre compte que c'est même pas sphérique, mais que ça tourne autour du Soleil en même temps que le Soleil tourne. Personne n'a la moindre idée de ce que c'est le parcours de la Terre dans l'univers, parce qu'il y a tellement de mouvements qui sont intriqués. Maintenant, réfléchis à tout ça et dis-toi, en fait, j'en sais rien. Il y a une joie à ne pas savoir, et il y a une joie à revisiter tout ce qu'on t'a appris. Depuis le truc typique du français, voilà, il faut que je sois élégant, que je n'aime pas tout. Peut-être que c'est la mauvaise éducation. Ou jusqu'à le propos de ma vie, c'est ça et rien de plus. Et si tu commences à revisiter tout ça et à reconnaître que, comme un être, tu es beaucoup plus que ton être physique, et que finalement, tu fais partie d'une communauté, de tout ce qui est vivant, et que ta vie est tellement dépendante, et je crois qu'on le reconnaît de plus en plus avec le réchauffement climatique. En fait, personne d'entre nous ne peut survivre tout seul, parce qu'on est tous ensemble dans une communauté, et on détruit notre habitat tous ensemble. Si tu commences à reconnaître tout ça, ton approche de la vie va devenir très très différente. Tu vas te dire, en fait, c'est pas juste à propos de moi, c'est à propos de tout le monde. Et si je peux aider l'univers, peut-être que l'univers va m'aider aussi. Et quand tu commences à réfléchir de cette manière, peut-être que le propos de ta vie devient autre chose. Peut-être que c'est pas juste une nouvelle voiture, une voiture plus puissante ou un appartement un peu plus grand. Peut-être que ça devient l'impact que ça a sur nous tous, sur ce qu'on aime, et peut-être que ça va changer la manière dont on vit, dont on travaille.
C'est intéressant. Et tu disais que tu écris un nouveau bouquin qui a presque fini. Est-ce qu'on peut avoir le pitch?
Le pitch. Je suis vraiment fier de celui-ci. Il s'appelle La petite voix dans ta tête, qui est une expansion d'une petite idée que j'approche dans Soul for Happy, qui est que qui est l'idée que tes pensées ne sont pas toi. Cette petite voix dans ta tête n'est pas toi. C'est simplement une fonction biologique qui est orchestrée par ton cerveau. Et si cette manière de penser est ce qui génère notre insatisfaction, alors peut-être qu'on devrait réfléchir à penser autrement. Et donc dans ce livre, j'utilise beaucoup de techniques de neurosciences, de résoudre des problèmes, mais surtout de comprendre comment le cerveau fonctionne comme une machine et pas comme une pièce de viande, finalement. Finalement, je partage le cerveau dans des sortes de software, presque, d'une manière simple. Le module 1 fait ABC, le module 2 fait XYZ. Et donc, après te montrer où ce module se trompe et comment tu pourrais éventuellement le corriger. Comment, par exemple, dans cette société matérialiste, on dépend plus de notre cerveau gauche que de notre cerveau droit. Et comment cela est injuste pour le féminin, mais aussi injuste pour la planète, et comment ça peut générer ton insatisfaction et comment on peut le corriger. Comment le système nerveux parasympathique n'est pas utilisé parce qu'on utilise notre système sympathique pour gérer tout le stress de ce monde moderne et en fait c'est un module qu'on peut hacker et changer pour nous rendre plus heureux. Donc tous les compartiments de cette petite voix dans ta tête et comment ça fonctionne, oui, voilà, je suis plutôt content de la manière dont ça progresse et je pense que les lecteurs et les lectrices vont vraiment apprécier.
Wow, ouais, c'est un super pitch. Alors, ce podcast s'appelle Vlan, et je voudrais savoir à quoi tu voudrais ouvrir la porte ou la claquer.
En fait, en ce moment, dans ma vie, la plus grande porte que j'ai ouverte, et c'est intéressant, c'est une porte qui me permet d'être beaucoup plus féminin. Évidemment, ça n'a rien à voir avec mon genre, d'être un homme ou une femme. Ça a plus à voir avec ouvrir à mes qualités féminines dans le monde. Donc, être moi, un ingénieur qui a grandi dans le Moyen-Orient et qui est un cadre dirigeant, clairement, j'ai beaucoup plus utilisé mon cerveau gauche, mon côté, toutes mes qualités masculines pour arriver là où j'en suis aujourd'hui. Et je pense qu'il y a 4 ans et demi, j'ai reconnu que pour continuer à progresser, il fallait que je développe les qualités féminines, l'intuition, l'empathie, cette capacité à avoir de la résilience, du flow. Ce sont des choses que j'ai envie d'avoir beaucoup plus dans ma vie et je suis très ouvert. Ce à quoi je ne suis pas très ouvert, c'est plutôt la rigidité et cette idée que quelque chose ne peut pas être discuté, par exemple. Et crois-le ou pas, à cause de ce flot constant, tout est en constante évolution. Et tu sais, je construis des concepts, je les écris, et quelques semaines après, je les revisite, parce que finalement, j'ai appris quelque chose de plus, et je les revisite, et je les revisite encore. Et c'est une expérience incroyable de vraiment vivre et de vraiment apprécier la vie, plutôt que de penser qu'on a trouvé la solution, et d'avoir cette arrogance de dire qu'on a tout compris.
Waouh. Merci Mo pour toute cette sagesse.
Merci beaucoup pour l'opportunité. J'adore être sur ce podcast. Hein. Et j'espère être à Paris bientôt et qu'on pourra se revoir.
Oh, j'adorerais ça. Et peut-être qu'on pourrait faire un enregistrement en live.
Ah oui, j'adorerais ça. Mais je pense que pour qu'on y arrive, il faudrait que les personnes qui écoutent fassent que cet épisode soit très écouté. Et je leur demande de nous aider à faire ça. Et pendant ce temps-là, toujours répandre ce message de bonheur, ça reste ma mission principale, de rendre 1 milliard de personnes heureuses, donc prioriser votre bonheur, parce que c'est ce dont on a besoin.
Totally, totally. Thank you very much, Mo.
You're so welcome. Thanks, Greg.
Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, vous pouvez le dire.